C'est le journal de Florence Paracuellos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'été sous le signe du Delta, le variant qui fait remonter les contaminations, c'est très net. Et même si ça ne se ressent pas dans les hôpitaux, c'est inquiétant. Un conseil de défense exceptionnel aura lieu lundi à l'Elysée. Tokyo sous état d'urgence, le pire des scénarios pour les JO annoncés dans la nuit. On ira voir comment les délégations étrangères sont accueillies. À la une aussi, Hubert Caouissin, condamné à 30 ans de prison, il échappe à la perpétuité, verdict équilibré, disent ses avocats. La triche au bac, plus facile avec le contrôle continu, parce que les élèves trichent en classe, bien plus qu'aux examens, il l'avoue. Lui triche avec les mots, pourtant il est académicien. Il nous expliquera pourquoi dans 20 minutes.
Oui, on est très heureux de recevoir le spécialiste de littérature médiévale, Michel Zinc, à notre micro avec Léa dans une vingtaine de minutes. Il publie « On lit mieux dans une langue qu'on sait mal ». C'est aux éditions Les Belles Lettres. Dialoguer avec lui, on parlera littérature étrangère. Appelez-nous 01 45 24 7000.
Angleterre-Italie, la finale de l'Euro. Dimanche prochain, les Anglais ont mis fin à la malédiction hier soir en battant le Danemark. Et puis sur le Tour de France, il y a eu de la casse hier comme prévu avec le double Ventoux. Aujourd'hui, ce sera beaucoup plus plat et calme entre la Drôme et le Gard.
France Inter.
Cette fois, les courbes remontent et c'est bien visible sur les graphiques de la pandémie. 4000 nouveaux cas hier, c'est 30% de plus que la semaine dernière. Scénario prévisible avec un variant Delta deux fois plus contagieux que le variant britannique. Il représente désormais 40% des contaminations en France et provoque une hausse du taux d'incidence dans 11 des 13 régions métropolitaines. Véronique Julia.
De toutes les mutations existantes, c'est la mutation L452R qu'on scrute avec le plus d'attention en ce moment, car elle est portée par le variant Delta. Quand on identifie cette mutation sur un cas positif, on a affaire à du variant Delta dans 80% des cas. Alors cette mutation, où la trouve-t-on le plus? Dans l'ordre d'importance, en région PACA, où elle serait déjà, semble-t-il, majoritaire, mais aussi en Corse, en Île-de-France, en Normandie, en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes. La dynamique épidémique est de fait particulièrement marquée cette semaine en région PACA et en Île-de-France, où l'incidence remonte. On frôle désormais les 60 cas pour 100 000 habitants à Paris. Ça a doublé en moins d'une semaine. À l'inverse, ça reste relativement calme en Bourgogne-Franche-Comté et dans les Hauts-de-France, deux régions où le variant circule un peu moins. La Bretagne, relativement épargnée elle aussi par le Delta, voit pourtant son incidence remonter, mais il suffit parfois d'un cluster pour que les chiffres s'emballent. Ce qui est sûr, c'est que dans les régions les plus touristiques, le moindre relâchement des comportements se paye cash chez les non-vaccinés, les jeunes en particulier. Chez les 20-29 ans, le taux d'incidence a pratiquement doublé en une semaine.
Alors pour l'instant, la seule option, c'est la vaccination massive. Au-delà des 52% de Français qui ont déjà au moins une dose, un conseil de défense exceptionnel devrait lundi valider l'obligation pour les soignants. Leurs représentants consultés hier par Olivier Véran sont pour. Mais au-delà de la contrainte et de la peur, comment donner envie à ceux qui hésitent encore? La région PACA espère que sa nouvelle campagne de communication va faire mouche avec des affiches. Mathilde Vinceneux qui met en scène des retrouvailles parfois très sensuelles. Vous les avez vues dans les rues de Marseille.
Sur ces affiches, un message, oui, le vaccin peut avoir des effets désirables. Et en arrière-plan, des scènes de vacances, une famille sur la plage, un couple qui s'enlace sur le quai d'une gare, un autre qui s'embrasse passionnément à l'arrière d'une voiture. Les scènes interpellent les passants.
On dirait une affiche de film.
Ouais, c'est un peu très cinéma, très... Mmh.
Une pub pour des préservatifs, le premier, ça fait pas du tout campagne de vaccination, ça. Un homme et une femme en train de s'embrasser, on dirait qu'ils rentrent de soirée.
Ça donne chaud, commente un internaute. Sur les réseaux sociaux, les affiches ont été très remarquées. L'agence régionale de santé espère toucher les jeunes qui hésitent encore à se faire vacciner. Philippe Demester, directeur général de l'ARS PACA.
On n'a pas arrêté de diffuser des messages qui expliquent pourquoi il faut se protéger. Mais on s'est aperçu que ce discours assez institutionnel, assez parfois un peu culpabilisant, parfois un peu trop officiel, quoi. Et ben en fait, ça porte assez peu. Et donc on a recherché, on a réfléchi ensemble à comment on pouvait toucher différemment.
Avec toujours un objectif pour l'ARS, éviter une quatrième vague. Les affiches seront visibles tout l'été. Marseille, Mathilde Vinceneuve, France Inter.
Et dans les Landes, premier département touché par le variant Delta, qui représente 85% des cas, des jauges restaient en vigueur dans les restaurants, les magasins, les cinémas. Elles sont désormais levées, mais l'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes est prolongée pour encore 15 jours. Au Japon, décidément, les Jeux Olympiques ne seront pas une fête dans 15 jours. Tokyo s'apprête à décréter l'état d'urgence jusqu'à mi-août à cause d'une nouvelle vague d'infections. Les compétitions déjà interdites aux étrangers pourrait passer au huis clos total. Mauvaise nouvelle pour les athlètes qui débarquent peu à peu dans la capitale avec des journalistes du monde entier. Surpris à leur arrivée à l'aéroport de Tokyo sur le papier, ils devaient être soumis à un protocole extrêmement strict, à peine le pied posé sur le sol japonais. Mais contre toute attente, il y a du laisser-aller, comme l'a constaté notre correspondante Karine Nishimura.
Passé les très longues et très encadrées procédures de contrôle et de test Covid-19, sortent dans le hall d'arrivée les participants étrangers aux Jeux Olympiques. Ils s'attendaient à un accueil parfait à la japonaise, assorti de mesures sanitaires strictes. Mais dans cet espace ouvert à tous, rien ou presque, constate un technicien de télévision allemand.
À l'intérieur, il y a des centaines de bénévoles, mais ici, personne.
Pendant que son collègue est parti fumer, il cherche une personne pour les aider.
Là, on doit prendre un taxi spécial et demain, on a une réunion au centre de presse. Pas de quarantaine, enfin, on espère.
Arrivent des athlètes et leurs accompagnateurs. Enfin, des bénévoles s'activent. Un coordinateur vérifie les destinations. Un entraîneur a enlevé son masque. Le préposé ne dit rien.
Je ne m'occupe pas d'eux, je coordonne.
Mais ils ne respectent pas les règles.
Ça, ce n'est pas de ma responsabilité.
Personne du comité d'organisation en vue. Nul ne semble s'inquiéter. Un bénévole explique.
Il y a des gens de Tokyo 2020, mais ce sont des jeunes, sans responsabilité.
La claire séparation entre les participants étrangers des JO et le grand public japonais a disparu dans ce hall où tous accèdent aux mêmes toilettes, espaces fumeurs, cafés ou distributeurs d'argent. Il paraît que l'encadrement sera meilleur la semaine prochaine. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
Lui aussi vient de passer par le hall de l'aéroport de Tokyo, le président du comité international olympique, Thomas Barr, arrivé sur place pour les Jeux les plus bancals de l'histoire.
Il est 8h07, ce sera 30 ans de prison et pas la perpétuité.
Le verdict de l'affaire Troadec tombé tard hier soir, Hubert Caouissin échappe donc à la peine maximale, les jurés ayant retenu une altération du discernement au moment des meurtres. Ses avocats saluent un verdict équilibré. Maître Thierry Fillon au micro de Corinne Audouin.
C'est un résultat espéré par la défense. Je ne dirais pas inespéré parce que je pense qu'il est, juste ce résultat. Nous savions que la peine de réclusion à perpétuité pouvait être prononcée dans ce dossier compte tenu de l'énormité des faits, de leur gravité, aussi de la médiatisation tout de même qui pèse quelquefois sur les décisions des cours d'assises. C'est un soulagement énorme pour nous, pour notre client. C'est pas une victoire en soi. Je pense que la justice est passée et nous en sommes particulièrement satisfaits. C'est vrai que ça laisse tout de même une perspective, une vraie perspective à Hubert Caouissin. Et cette vraie perspective, je crois, une nature peut-être à lui permettre de continuer. C'était notre grande crainte qu'une peine trop lourde, trop désespérante, comme nous l'avons dit ce matin en plaidant, coupe court en définitive à toute espérance et en définitive à son souhait de continuer à vivre dans ces conditions-là.
Maître Thierry Fillon, avocat d'Hubert Caouissin, son ex-compagne Lydie Troadec est condamnée à 3 ans de prison, dont 2 fermes. En Haïti, 4 mercenaires ont été tués cette nuit impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse hier matin. 2 autres ont été arrêtés, on ne sait pas encore qui ils sont ni pour qui ils ont agi. Eux gagnent du terrain à la faveur du retrait américain. Les talibans en Afghanistan attaquent une première grande ville dans le nord-ouest du pays. L'armée américaine a déjà rapatrié 90% de ses soldats. Le bac, c'est terminé cette année, à part pour ceux qui passent leur rattrapage. Et l'on se projette déjà sur celui de l'an prochain, qui comprendra donc 40% de contrôle continu, basé sur les bulletins scolaires de première et de terminale. Un nouveau bac, sur lequel se penchera aujourd'hui le Conseil supérieur de l'éducation, mais qui fait déjà débat chez les profs, puisqu'il dépendra en partie des contrôles passés en classe. Or, en classe, on le sait bien, parfois on triche, Sonia Princet.
Avec le contrôle continu cette année, certains professeurs racontent qu'ils ont dû plus que jamais guetter le moindre mouvement suspect lors des devoirs surveillés en classe. Quand ils sont seuls face à une 30aine d'élèves serrés les uns à côté des autres, comme en témoigne cette enseignante parisienne.
On a eu une classe notamment, effectivement, où tous les professeurs se sont aperçus qu'ils avaient vraiment une manière très, très sophistiquée de tricher. Alors, ils étaient solidaires entre eux. Et donc, ils se couvrent. On n'a pas les feuilles de bac, donc ils peuvent très facilement, par exemple, glisser un brouillon ou des notes dans une copie double personnelle. Ou, on sait que le portable, c'est interdit, mais ils peuvent tapoter sans même regarder leur portable. Ils le mettent entre les cuisses, ils le mettent dans des poches kangourou. Et même les meilleurs élèves, voyant la tricherie généralisée, ils pensent pas forcément à mal, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de pression collective.
Et oui, même les bons élèves, comme Sacha et Nawel, confirment.
Comme dans toutes les classes, les élèves, ils trichent. Par exemple, le professeur, il va sortir de la classe, il y en a qui vont donner les réponses à d'autres. Donc les notes, elles sont pas, c'est pas nos vraies notes. Même moi, j'ai triché. Même moi.
Bah oui, c'est normal. C'est normal.
Mais pas tout le temps, mais... Ouais, je l'avoue, hein, je m'en fous.
Plus subtil encore, certains lycéens s'arrangent pour être absents lors des derniers contrôles du trimestre pour ne pas risquer de faire baisser leur moyenne. Des tactiques que les professeurs vont devoir débusquer.
Sonia Princet, ne plus séparer les fratries, frères et sœurs dans le même lieu d'accueil quand ils sont retirés à l'autorité de leurs parents. Vote unanime des députés à l'Assemblée hier soir en première lecture du projet de loi de protection des enfants. 6 embarcations en détresse secourues ces derniers jours en Méditerranée avec pas loin de 600 candidats à l'exil à bord. L'été plus propice au départ par la mer, mais ça n'est pas la seule voie d'accès à l'Europe. Les migrants sont aussi de plus en plus nombreux à passer par la terre. On les retrouve dans les Alpes, à la frontière italienne, quand ils veulent passer en France. Et parmi eux, beaucoup de jeunes hommes maghrébins qui fuient la crise dans leur pays. Thibault Lefebvre a rencontré Khaled, un Algérien de 26 ans, un an et demi d'errance sur la route des Balkans avant d'arriver à Montgenèvre, le col de Montgenèvre qu'il faut passer pour arriver à Briançon. Il veut réaliser son rêve, vivre et travailler en France.
Avec sa parka bleue récupérée dans une poubelle en Italie et son sac à dos qui contient le minimum vital, un pull, de l'eau et un peu de pain, Khaled voyage léger pour surtout ne pas se faire repérer.
C'est trop risqué parce que ces montagnes me font peur. Tu vas les monter dans la nuit. Si tu grimpes et puis tu vas chuter, je crois que c'est la mort. Tes rêves et toi... Vous êtes mort.
Et le rêve de Khaled est juste là, de l'autre côté de la frontière, à moins de 300 mètres.
À 300 mètres, la France, mais c'est incroyable. Enfin, on va avoir une nouvelle vie, une vie comme les autres.
Khaled souhaite devenir plombier en France, un objectif que ce fils unique a mûri il y a un peu plus d'un an et demi dans le salon de la petite maison qu'il partageait avec ses parents à Tizi Ouzou, en Kabylie.
J'arrive pas à travailler dans mon propre pays, c'est pour ça que j'ai décidé de partir. Je ne veux pas que mes parents me voient comme quelqu'un qui ne travaille pas. Ton papa, il entre à la maison, il te voit juste assis. Tu n'as qu'à le regarder, lui, il te regarde. C'est très difficile. Donc en France, au moins j'ai un but. C'est mieux que de rester les bras croisés.
Khaled ne passera pas ce soir-là en France, arrêté par la police, puis renvoyé quelques heures plus tard en Italie. Il a décidé de retenter sa chance dès le lendemain.
Thibault Lefebvre, une guitare et une moto de 6 mètres de haut, sculpture hommage à Johnny Hallyday, sera bien installée devant Bercy, malgré l'opposition des élus verts, qui voyaient comme un mauvais signal l'arrivée d'une Harley Davidson géante à l'entrée de la capitale. Oui, c'est une moto, mais elle ne pollue pas, c'est une œuvre d'art, a répliqué la maire Anne Hidalgo.
France Inter, il est 8h13, la dernière fois, Florence, était en 1966.
L'Angleterre en finale de la Coupe du Monde de foot à l'époque, depuis plus de phases finales dans aucune grande compétition internationale, jusqu'à hier soir, la malédiction a pris fin. L'Angleterre passe les demi en battant le Danemark 2-1 après prolongation. Elle affrontera donc Alexandre Vaux, l'Italie, dimanche à domicile au stade de Wembley.
Une fois de plus, hier, l'Angleterre a maîtrisé son sujet, porté par une ambiance incroyable. Sans paniquer, malgré l'ouverture du score danoise, avant de recoller au tableau d'affichage, puis de prendre l'avantage sur un pénalty généreux, mais transformé par son capitaine et buteur Harry Kane. Le rendez-vous est donc pris en finale dimanche face à l'Italie, de retour au premier plan. Se méfie le sélectionneur anglais Gareth Southgate.
Les Italiens font partie des meilleurs. Ils sont dynamiques, ils ont un
super style de jeu. Et en plus, c'est compliqué de leur marquer des buts. Ça sera peut-être le test le plus dur qu'on ait à jouer, avec un jour de récupération en moins. On doit se préparer dès maintenant pour la finale dimanche. Une magnifique opportunité.
Et ainsi suivre ce chemin qui semble avoir été tracé pour l'Angleterre, en jouant tous ses matchs à domicile, sauf un, et avec un tableau ouvert, sans grand favori sur sa route avant la finale, cette sélection anglaise peut écrire une nouvelle page dimanche en remportant la deuxième finale de son histoire, 55 ans après le Mondial 66, déjà gagné à l'époque dans l'antre mythique de Wembley. Londres, Alexandre Vaux, France Inter.
Enfin, ce fut éprouvant. Comme prévu, sept abandons hier sur le Tour de France, le double Ventoux en guise de coup de grâce après un parcours déjà harassant. Aujourd'hui, ça devrait se calmer entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes, étape promise aux sprinteurs. Et nous retrouvons, comme chaque matin, sur la route du Tour, Jérôme Cadet. Bonjour Jérôme.
Bonjour Florence, bonjour à tous.
Votre œil ce matin se pose, Jérôme, sur les héritiers, car le Tour est une passion qui se transmet souvent de père en fils.
Oui, c'est une question que les entraîneurs de jeunes connaissent bien. Que faire des parents? Vous savez, ceux qui hurlent au bord de la touche au point de coller la honte à leur gamin. Ça vaut aussi, on l'a vu, à l'Euro pour l'équipe de France de football. Sujet sensible dans le cyclisme, où l'on est souvent coureur de père en fils. Ainsi, Mathieu Van Der Poel a, durant ce tour, porté le maillot jaune 37 ans après son père Adrie. Ses héritiers partent-ils avec une longueur d'avance sur les autres? Sans aller jusqu'à citer Pierre Bourdieu, je me contenterai de Wout van Aert, le jeune coureur belge de 26 ans qui s'est imposé hier. En avril, voilà comment il racontait au journal L'Équipe sa première course face à Van Der Poel à l'âge de 8 ans. « Je ne venais pas d'une famille de cyclistes. J'ai débarqué là avec un VTT bas de gamme. Mathieu, lui, avait des roues en carbone », se souvient Van Aert, ce qui ne l'a donc pas empêché de réussir. Hier, sur les pentes du Ventoux, un certain Julien Bernard a ouvert la route pendant quelques kilomètres. Il y a 34 ans, son père, Jean-François Bernard, y remportait un contre-la-montre. Jeff n'a rien fait pour précipiter son fils dans la carrière. Il a trouvé sa voie tout seul. J'ai lu hier qu'au XIVe siècle, les Provençaux surnommaient le Ventoux le Montfiston. Ça m'a fait rire.
Et ben voilà, nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Ça continue aujourd'hui, 12e étape entre la Drôme et le Gard, 159 km avec un Tadej Pogacar, toujours en jaune.
Merci Florence Paracuellos. Quelques mots de météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Et c'est reparti Marie-Pierre avec un ciel bien nuageux dès ce matin.
Eh oui, avec des nuages bas de la Bretagne, au Pays de la Loire, au Pays Basque, avec des averses sur les côtes atlantiques, sur les régions centrales, entre le nord, l'Île-de-France, jusqu'au centre, au Massif central, le ciel va alterner entre nuages éclaircis ce matin. Et sur l'est, le ciel est déjà chargé du Grand Est aux Alpes avec des pluies et un orage qui peut éclater sur l'Alsace. En revanche, le soleil s'impose déjà des Alpes du Sud à la Méditerranée où le Mistral et la Tramontane se sont levés. Les températures sont toujours contrastées, pas plus de 8 degrés dans l'Oise, 10 à Poitiers, 11 à Lille et en Lozère, 14 à Paris et déjà 22 à Cannes et 25 à Ajaccio.
Et retour des orages cet après-midi à l'Est.
Et oui, des orages parfois forts, hein. Attention, se déclencheront près des frontières des Vosges jusqu'aux Alpes du Sud. Ailleurs, on ne lâche pas le parapluie car difficile d'échapper à une averse entre deux éclaircies, alors que le soleil dominera entre l'Occitanie à la Corse, mais avec une averse possible sur les reliefs Pyrénéens et Corse. Et côté du Mercure, ce ne sera pas vraiment chaud, excepté dans le sud. Alors vous aurez seulement 18 à Lorient, 19 à Quimplage, comme à Aurillac, 20 à Besançon, pas plus de 21 à Lille, Biarritz ou Nevers, 22 à Lyon et Bordeaux, comptez 23 à Paris et Strasbourg, 24 à Toulouse, 28 à Perpignan et à Nîmes, et 30 à Bastia.
Marie-Pierre, merci et à tout à l'heure en effet. Il est 8h18.